Chapitre 4. Les différents modes de perception. Ces règles posées, je commence par ce qui doit être fait avant tout le reste, et j'essaie de réformer l'entendement et de le disposer à concevoir les choses de la manière dont elles doivent être conçues pour qu'il nous soit possible d'atteindre notre fin. Or, pour cela, l'ordre naturel exige que je résume les différents modes de perception sur la foi desquels, jusqu'ici, j'ai affirmé et nié sans crainte de me tromper, afin de choisir le meilleur et tout ensemble de commencer à connaître et mes forces et cette nature que je me propose de perfectionner. À y regarder de près, tous nos modes de perception peuvent se ramener à quatre. Premièrement, il y a une perception que nous acquérons par ouï-dire ou au moyen de quelques signes que chacun appelle comme il lui plaît. Deuxièmement, il y a une perception que nous acquérons à l'aide d'une certaine expérience vague, c'est-à-dire d'une expérience qui n'est point déterminée par l'entendement et qu'on appelle de ce nom que parce qu'on a éprouvé que tel fait se passe d'ordinaire ainsi, que nous n'avons à lui opposer aucun fait contradictoire et qu'il demeure, pour cette raison, solidement établi dans notre esprit. Troisièmement, il y a une perception dans laquelle nous concluons une chose d'une autre chose, mais non d'une manière adéquate. C'est ce qui arrive lorsque nous recueillons une cause dans un certain effet, ou bien lorsque nous tirons une conclusion de quelque fait général constamment accompagné d'une certaine propriété. Quatrièmement, enfin, il y a une perception qui nous fait saisir la chose par la seule vertu de son essence ou bien par la connaissance que nous avons de sa cause immédiate. J'éclaircis tout cela par des exemples. Je sais seulement par oui dire quel est le jour de ma naissance, quels furent mes parents et autres choses semblables sur lesquelles je n'ai jamais conçu de doute. C'est par une expérience vague que je sais que je dois mourir, car si j'affirme cela, c'est que j'ai vu mourir plusieurs de mes semblables, quoiqu'ils n'aient pas tous vécu le même espace de temps, ni succombé à la même maladie. Je sais par une expérience vague que l'huile a la vertu de nourrir la flamme et l'eau celle de l'éteindre. Je sais de la même manière que le chien est un animal qui aboie et l'homme un animal doué de raison, et c'est ainsi que je connais à peu près toutes les choses qui se rapportent à l'usage ordinaire de la vie. Voici maintenant comment nous concluons une chose d'une autre. Ayant perçu clairement que nous sentons tel corps et non pas tel autre, nous en concluons que notre âme est unie à notre corps, laquelle union est la cause de la sensation. Mais quelle est la nature de cette sensation, de cette union? C'est ce que nous ne pouvons comprendre d'une manière absolue. Autre exemple. Je connais la nature de la vue et je sais qu'elle a cette propriété que la même chose vue à une grande distance nous paraît moindre que vue de près. J'en conclus que le soleil est plus grand qu'il ne me semble et autre chose semblable. On perçoit une chose par la seule vertu de son essence quand, par cela seul que l'on connaît cette chose, on sait ce que c'est que de connaître quelque chose, ou bien quand, par exemple, de cela seul que l'on connaît l'essence de l'âme, on sait qu'elle est unie au corps. C'est par le même mode de connaissance que nous savons que 2 plus 3 font 5 et que, étant donné 2 lignes parallèles à une troisième, elles sont parallèles entre elles, etc. Toutes les choses que j'ai pu saisir jusqu'ici par ce mode de connaissance sont en bien petit nombre. Mais, afin que l'on ait une intelligence plus claire de toutes ces choses, je me bornerai à un exemple unique. Le voici. 3 nombres sont donnés. On en cherche un quatrième qui soit au troisième comme le second est au premier. Nos marchands disent qu'ils savent ce qu'il y a à faire pour trouver ce quatrième nombre. Ils n'ont pas encore oublié l'opération qu'ils ont apprise de leur maître, opération tout empirique et sans démonstration. D'autres tirent de quelques cas particuliers empruntés à l'expérience un axiome général. Ils prennent un cas où le quatrième nombre cherché est évident de lui-même, comme ici. 2, 4, 3, 6. Ils trouvent par l'expérience que le second de ces nombres étant multiplié par le troisième, le produit, divisé par le premier, donne 6 pour quotient. Et, voyant que le même nombre qu'ils avaient deviné sans opération est le nombre proportionnel cherché, ils en concluent que l'opération est bonne pour trouver tout quatrième nombre proportionnel. Quant aux mathématiciens, ils savent par la démonstration de la 19e proposition du livre 7 d'Euclide quels nombres sont proportionnels entre eux. Ils savent par la nature même et par les propriétés de la proposition que le produit du premier nombre par le quatrième est égal au produit du second par le troisième. Mais ils ne voient pas la proportionnalité adéquate des nombres donnés, ou, s'ils la voient, ils ne la voient point par la vertu de la proposition d'Euclide, mais bien par intuition et sans faire aucune opération.